Binti Minoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguer.
Bonjour, nouveau numéro de Binti Minoudi avec aujourd'hui comme invité Antoine Orsini, maire de Castello de Rustino, commune du centre Corse de quelques 500 habitants dont fait partie Ponte Novo. Maire jusqu'en mars prochain, car Antoine Orsini, vous avez décidé de ne pas solliciter un quatrième mandat. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Je rappelle pour en finir avec les présentations que vous avez été conseiller territorial sous la mandature Jacobi jusqu'en 2015. Vous étiez alors président de la commission des finances. À ce titre, vous nous donnerez votre sentiment sur la gestion des nationalistes qui vous ont succédé, gestion notamment des dossiers des déchets et des transports. Antoine Orsini, bonjour.
Bonjour Patrick.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi, après 19 années passées à la tête de Castello de Rustino comme maire, vous renoncez à briguer une nouvelle fois les suffrages des électeurs alors que vous êtes encore jeune, 54 ans seulement? Un aveu d'impuissance, une usure?
Alors, vous dites 19 ans de maire, c'est tout à fait exact, auquel ont précédé 6 ans de premier adjoint où le maire, dont j'étais le premier adjoint, était déjà en partance et donc j'étais déjà en première ligne. Donc, ce qui fera en fait 25 ans, un quart de siècle. Avouez que dans la vie d'un homme, ce n'est pas tout à fait rien.
Et effectivement, il y en a qui ont fait beaucoup plus. Hein,
c'est vrai.
Qui font beaucoup plus.
Hein. C'est vrai. Mais je suis de ceux qui pensent que, d'ailleurs, la loi pour des communes plus importantes a limité le nombre de mandats cumulés dans le temps. Moi, je dois vous dire que, comme je l'ai dit à mes concitoyens, je me suis beaucoup engagé avec passion, d'énergie, de travail au service de ma commune, que je continue à aimer et bien sûr que je continuerai à aimer, même si je quitte les fonctions de maire. Mais tout ce travail s'est fait souvent aux dépens de ma vie privée et familiale, de ma vie professionnelle aussi. Et aujourd'hui, j'aspire à d'autres passions. J'aspire à pouvoir passer plus de temps avec les miens. Et puis, c'est vrai qu'il y a, vous avez énoncé le mot, il y a un sentiment d'usure, de lassitude qui s'installe avec le temps. Et je crois qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page.
Être maire d'une petite commune de l'intérieur comme la vôtre, c'est plus compliqué que de gérer une grande ville ou une ville moyenne?
Alors, je dirais qu'une commune comme la mienne, qui aujourd'hui a dans les 540-550 habitants, c'est la mauvaise taille. Elle est trop petite pour avoir l'ensemble des services juridiques, financiers, administration forte, qui joue un peu ce rôle tampon et puis qui vous conseille. Car aujourd'hui, le maire est très exposé dans tous les domaines. Et elle est trop grande pour que le maire n'ait rien à faire. Parce que dans une commune comme ça, en plein développement, il y a beaucoup de choses à faire. Je disais à l'un de vos confrères de la presse écrite que le maire, dans une commune comme la mienne, il est à la fois secrétaire général de la commune, officier d'état civil, officier de police judiciaire, garde champêtre, directeur juridique, directeur financier, j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire que vous devez avoir de multiples casquettes, ce qui sous-entend de multiples compétences, et c'est pas toujours évident, d'autant plus que vous êtes exposé à des risques, y compris pénaux. Hein. Et puis, c'est beaucoup de temps, c'est une activité qui est très chronophage. On ne compte pas son temps. Vous êtes maire du 1er janvier au 31 décembre, jour et nuit.
Et les indemnités sont modiques? Écoutez, pour un maire d'une commune de 500 habitants, c'est de l'ordre de quel ordre?
Je vais vous livrer le montant. C'est moins de 600 euros par mois. De quoi vous payez les frais d'essence, de tous les allers-retours que vous faites et toutes les réunions auxquelles vous assistez.
Antoine Orsini, le développement de l'intérieur, sauver le monde rural, c'est une constante de toutes les politiques nationales et régionales depuis les années 70. Et pourtant, le déclin se poursuit. Les récents chiffres donnés par l'INSEE en témoignent. Est-ce un vœu pieux, malgré les dizaines de millions d'euros annoncés, malgré, par exemple, en Corse, la fibre partout?
Écoutez, l'incantation à l'intérieur, de la revitalisation intérieure, c'est un refrain que l'on connaît depuis longtemps.
Les années 70, à peu
voilà,
près.
Voilà, oui. Alors, il y a eu un regain démographique dans certaines communes de l'intérieur. Parce que quand on parle de l'intérieur de la Corse et le rural, il y a une typologie à faire. Il y a des communes comme la mienne et comme beaucoup d'autres qui ont pu tirer leur épingle du jeu en raison de leur situation, de dynamisme aussi de leur municipalité.
Sur la territoriale.
Tout à fait. Il y a des communes plus petites et beaucoup plus retranchées au fin fond de la Corse où les choses, moi je le reconnais, sont beaucoup plus difficiles.
Éloignées des zones urbaines.
Tout à fait. Alors, dans ce cas-là, effectivement, les choses sont plus difficiles. Cependant, je crois qu'il y a un certain nombre d'actions à mettre en place. En disant cela, je ne dis pas que rien n'a été fait, bien au contraire.
Rapidement, faudrait mettre en place d'urgence.
Le désenclavement numérique et physique des gens, les routes, c'est très important, plus qu'on ne le croit, et notamment la sécurité des routes, la sécurisation des routes et leur confort routier. Le numérique, évidemment, car aujourd'hui, tout marche par le numérique, le téléphone, l'Internet, etc. Ça me paraît des choses essentielles. Et puis, il y a l'accès à un certain nombre de services essentiels, comme par exemple les médecins, les infirmiers.
Les services publics.
Les services publics de manière plus générale.
Le message est passé. Allez, on continue.
Binti Minoudi, Patrick Vinciguard.
Avec Antoine Orsini, maire de Castel-Oudéroustine, encore pour 2 mois, et ancien président de la commission des finances de l'Assemblée de Corse sous l'ère Jacobi. Vous apparteniez donc à la majorité territoriale, vous étiez proche de Simon Renucci et aviez déjà à gérer des dossiers qui, hélas, 5 ans après, ne sont pas encore résolus, à commencer par les déchets. La Corse va de crise en crise, tout le monde mise sur le tri, mais apparemment cela ne suffit pas. Rossano Ercolini, qui prône inlassablement le modèle zéro déchet, était ce samedi à Corté. Il était déjà venu en Corse il y a 4 ans prêcher la bonne parole, mais cela n'a pas produit l'effet escompté. On écoute sa réaction et vous réagissez.
Je suis triste. Je considère cette situation en Corse comme un échec personnel. J'étais vraiment accueilli de façon très chaleureuse il y a 4 ans. J'ai vu qu'il y avait une véritable disponibilité à mettre en œuvre les politiques de zéro waste. Et 4 ans après, pas grand-chose. Je pense qu'il y a un véritable problème de choix politique, de volonté politique.
Seulement une question de volonté politique, ou est-ce la solution au zéro déchet qui n'est pas transposable de l'Italie, de votre région, à la Corse?
Je ne pense pas que ce soit un problème de transposer le modèle. La Corse est proche de l'Italie. Même le caractère des Corses est très proche du caractère des Italiens. En Italie, pour citer un exemple, il y a 305 communes qui ont adopté la politique de zéro waste. 7 millions d'Italiens. Donc c'est un modèle qui a démontré qu'il peut fonctionner.
Binti Minoudi, l'émission politique.
Antoine Orsini, Rossano Ercolini a raison, c'est uniquement une question de volonté politique.
Alors d'abord, moi je suis aussi triste, sinon même peut-être plus triste que lui, de voir cette situation récurrente qu'on n'arrive pas à régler depuis des décennies. Cette situation, je crois que peut-être il n'y a pas eu d'assez de détermination politique dans les choix qui ont été faits. Je rappelle qu'un premier plan a été voté.
Plus aujourd'hui qu'hier.
Je veux pas mettre de gradient. Je pense que les responsabilités sont continues dans cette affaire. Sinon, ça se verrait, ça se saurait, on n'en serait pas là.
Est-ce qu'il n'y a pas un manque de courage politique pour imposer des solutions?
Les imposer, oui, mais dans la limite du droit. Vous voyez qu'aujourd'hui, au-delà du tri sélectif, qui me semble être la chose à prioriser, c'est ce que dit l'exécutif en place, c'est ce que l'on disait auparavant. Il faut mettre le paquet. Mais je dois dire qu'il fallait au bout des choses. Je m'explique. Dans la mesure où je vais faire un petit clin d'œil, si vous le permettez, où le général Marshall, après avoir financé la reconstruction de l'Europe d'après-guerre, a accepté de mettre le paquet sur le tri sélectif en Corse, eh bien, faisons-le. Mais il faut aller au bout. Il faut
Vous
non
faites
seulement...
référence au plan Marshall annoncé par Gilles Sibillon à Corté il y a quelques semaines.
Il faut notamment mettre le tri sélectif au porte-à-porte, mais plus que ça. Il faut que le tri sélectif au porte-à-porte soit dans un système d'application du principe de pollueur-payeur. C'est-à-dire que le ménage, puisqu'on va raisonner au niveau des ménages, qui a un taux de déchets résiduel, parce que c'est ça où est le problème, qui est supérieur à une norme, doit être surtaxé, et à l'inverse, celui qui se trouve dans un qui fait du tri et qui se trouve dans un taux de déchets résiduels inférieur à la norme doit être
sous-taxé.
Voilà.
Incitation fiscale.
Et vous verrez que ce n'est aujourd'hui faire appel à la citoyenneté des gens, ce n'est pas suffisant. Il faut toucher le portefeuille, c'est la seule façon d'y arriver.
Mais ensuite, quand je parlais de courage politique, il faut imposer des centres, des lieux pour accueillir des centres au moins de stockage, voire de surtri, puisqu'il faudra des structures de surtri si on veut aller vers le tout-tri. Et le zéro déchet.
Deux observations là-dessus. Moi, vous parlez de centre de stockage. Il faut appeler un chat un
décharge.
Un centre de stockage, c'est quoi? La définition de stockage, c'est que vous entreposez à un endroit temporairement.
Mais des déchets inertes.
Les centres de stockage, c'est quoi? C'est du stockage souterrain multiséculaire. Ça s'appelle de l'enfouissement. Moi, en tant qu'agronome, je suis agronome de formation, je suis fondamentalement contre l'enfouissement. C'est la pire des solutions. Je crois que les déchets résiduels que l'on doit minimiser grâce à un tri que l'on doit porter au feu, les plus poussés, je crois que ces déchets résiduels, on doit les traiter par d'autres procédés.
Puisque vous parlez de feu, l'incinération, on y renonce définitivement?
Il y a des procédés de valorisation, incinération ou méthanisation, il y a des procédés, je ne suis pas un technicien spécialisé dans le domaine, mais qui en plus peuvent générer des recettes. Je crois qu'il faut aller vers ces solutions-là. Mais à condition qu'on ait bien traité la question des déchets résiduels, les minimiser au maximum. C'est un ensemble. Mais je crois que continuer sur la voie de l'enfouissement, à la limite, tout le monde peut être d'accord. Et encore, moi, je le suis contre par principe. Mais je pense que, vous le constatez, à chaque fois qu'il y a un projet, l'enfouissement, c'est bien, mais chez les autres. Donc, on n'y arrivera pas.
Aujourd'hui, qui est responsable de cette situation? La collectivité de Corse, les intercommunalités, le CIVADEC, tout le monde se renvoie la balle.
C'est un dossier qui, à mon goût, est beaucoup trop politisé. On se renvoie la balle, on règle des comptes. Je crois qu'il faut beaucoup plus de sérénité dans ce dossier, le traiter en tant que tel, comme un dossier technico-économique, et enfin régler ce problème. Je crois que la collectivité de Corse a un rôle majeur à jouer. Le CIVADEC est un opérateur qui a aussi son rôle à jouer. Puis les interco qui sont chargés de la collecte doivent aussi jouer le jeu. Donc c'est un ensemble partenarial à mettre en place, mais il faut que la voie que l'on emprunte soit claire et soit poussée jusqu'au bout.
Alors, autre dossier, Antoine Orsigne, à la une de l'actualité insulaire depuis des décennies, les transports maritimes. On pensait la question résolue en 2015 avec la fin de la SNCM, l'avènement de la Corsica Linea et la promesse d'une compagnie régionale. Et pourtant, c'est la deuxième fois en 6 mois que le port de Marseille est bloqué. C'est les marins de la méridionale qui bloquent. Ils craignent que leur compagnie ne disparaisse s'ils perdent la DSP qui sera attribuée en janvier prochain. Délégation de service public de 10 ans sur les ports principaux de Bastia et Ajaccio. Ils comptaient en fait sur une offre commune avec la Corsica Linea pour l'emporter, mais ce partenariat semble être remis en cause. On écoute les explications de Cyril Venouille du STC de la Méridionale.
Ce partenariat qui devait se formaliser sur un partage des ports principaux, aujourd'hui on n'en voit pas venir le jour, et donc aujourd'hui l'inquiétude des salariés est de plus en plus présente. Le temps presse pour que les compagnies se mettent d'accord dans cette réponse qui permette de retrouver un équilibre qu'on connaissait jusqu'au 1er octobre. Aujourd'hui, ceux qui avaient donné un accord semblent revenir dessus, parce que ils ont, je pense, d'autres intérêts que celui des salariés des compagnies. Aujourd'hui, nous disons que cet accord qui a été passé au mois de juin doit prévaloir sur l'appétit financier de certains actionnaires de telle ou telle compagnie. La responsabilité semble être portée par Pascal Trojan et les actionnaires qui l'entourent au sein de la compagnie Corsica Linea.
20 minutes, l'émission politique.
Antoine Orsigne, que vous inspire ce nouveau conflit dans le maritime? Rien n'a été résolu depuis 2015?
Écoutez, d'abord, je vous fais observer que c'est un conflit ou une mésentente entre deux compagnies privées. C'est une mésentente économique et commerciale. Je n'en connais pas les raisons profondes. Je crois même qu'il y a un contentieux, en tout cas, porté par la Méridionale sur la DSP en cours. Donc, c'est peut-être une explication. En tout cas, c'est d'ordre privé. Maintenant, je comprends tout à fait l'inquiétude des marins de la Méridionale, parce que la Méridionale a une flotte qui est beaucoup plus restreinte, et du fait que l'allotissement ne soit plus la solution qui a été retenue pour la prochaine DSP, ligne par ligne, il est certain que la méridionale seule ne pourra pas valablement
postuler. Il faut absolument postuler. Un partenariat.
Voilà. Donc, je comprends bien qu'il se trouve en difficulté. Du reste, je ne suis pas sûr que la Corsicaline elle-même ait la flotte suffisante pour faire l'ensemble des ports de Corse dans la future DSP.
La compagnie régionale promise en 2021 peut-elle être la solution ? Ou s'agit-il d'un simple partenariat public-privé qui fondamentalement ne changera pas grand-chose ?
La société d'économie mixte, la CEMOP, qui est envisagée, qui effectivement est un partenariat public-privé, je ne sais pas, il faut voir, ça peut être une solution. Je note que les partenariats public-privé en France et en Europe, après avoir vécu une heure de gloire, aujourd'hui sont en train de disparaître petit à petit. On en est revenu. Deuxièmement, ça mettra la collectivité de Corse dans une situation de juge et partie, puisqu'elle sera à la fois délégante et délégataire, puisqu'elle en fera partie même de manière majoritaire. Donc ça peut poser des difficultés. Moi, j'appelle l'attention des gestionnaires là-dessus.
Ça risque d'être compliqué juridiquement. En attendant, le conflit se poursuit. Allez, on continue nous aussi.
RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
On aborde, Antoine Orsini, notre dernière partie. On reste au niveau régional. La collectivité unique a aujourd'hui 2 ans. Elle regroupe quelques 4500 agents. Et pourtant, les embauches se poursuivent. C'est le reproche fait avec malice par François Hollande et du groupe Panda Pédomone à l'exécutif. C'était lors de la dernière session, vendredi dernier.
Nous constatons, sauf erreur, que le nombre de postes pourvus au 31 décembre 2018 était de 4138 pour passer à 4255 à la fin du mois 2019. Vous aviez dit au moment des débats du budget primitif que si on embauche, c'est qu'il y a des besoins. Je vous l'accorde avec les mêmes observations qu'hier et si vous me permettrez, je ferai une petite parenthèse avec une humble recommandation. Faites confiance aux agents qui sont en place. Je sais que vous le faites, mais ça doit être ressenti de manière beaucoup plus large. Vous voyez, Monsieur le Président, vos prédécesseurs avaient probablement aussi des besoins. On les taxait facilement d'embauches politiques, alors qu'elles étaient tout autant des embauches nécessaires.
Binti Minoudi, l'émission politique.
Antoine Orsini, une réaction. Vous avez, vous aussi, le sentiment que la précédente mandature, la mandature Jacobi, a été la cible parfois d'attaques injustes. Vous étiez, je le rappelle, président alors de la commission des finances.
Vous savez, il est de règle ou de bon aloi que tour à tour, les oppositions et les majorités s'accrochent sur ce type de questions. On connaît ça et ça se vérifie encore aujourd'hui. Au-delà de cela, ce que je peux vous dire, c'est que moi je ne connais pas la comptabilité, n'étant pas élu à l'Assemblée de Corse, des embauches qui ont été faites. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a au sein de la collectivité de Corse des ressources humaines qualifiées. Et je crois que le principe, ça doit être, bien sûr, d'abord valoriser et utiliser l'ensemble des ressources humaines présentes. Il se peut que sur certains profils, il faille des spécialisations plus techniques qui ne font pas forcément présentes dans la collectivité, qui parfois ne sont même pas présentes dans la fonction publique territoriale, et qu'on fasse appel à des personnels extérieurs, notamment par la voie contractuelle. Ça me paraît tout à fait possible et normal.
Quoi qu'il en soit, quand vous avez quitté le pouvoir en 2015, la situation financière de la CTC n'était pas très saine non plus. On se souvient de ce rapport cinglant de la Chambre régionale des comptes qui pointait à un déficit de quelques 100 millions d'euros.
Je m'étais déjà exprimé à l'époque sur le sujet en distinguant ce qui relevait de l'exécutif et ce qui relevait la commission de finances, dont nous n'avons pas eu connaissance en temps utile de ces données-là, pour les raisons techniques auxquelles on n'a pas le temps de revenir aujourd'hui, mais je m'étais exprimé à l'époque. Ce qui me paraît important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, je vois que les investissements qui sont faits le sont surtout par l'autofinancement, mais surtout par la voie de l'emprunt. C'est une situation qui ne pourra pas perdurer, d'où la nécessité de remettre sur l'ouvrage la question de la réforme fiscale. Ce que j'avais dit à l'époque de la mise en place de la collectivité unique, si en même temps que la collectivité unique, on ne fait pas une réforme fiscale qui permette de générer de nouvelles recettes, la nouvelle collectivité, aussi rutilante soit-elle, ne pourra pas aller bien loin.
Donc vous êtes assez inquiet. Dernière question, Antoine Orsini, avant de terminer, de mettre un terme à cette émission. Vous quittez donc la mairie de Castello de Rustino. à la fin mars. La politique ne va pas vous manquer ? Vous n'avez pas peur de vous ennuyer ?
Je reste passionné par la politique, même si je considère que la politique a beaucoup changé, y compris au plan national d'ailleurs. Ceci dit, je resterai un observateur attentif, et puis rien ne dit que je ne devienne pas un nouveau acteur de la politique, mais probablement pas, certainement pas en tout cas, au plan communal.
Vous pourriez revenir au plan régional ?
On ne peut pas dire, Fontaine, je ne boirai plus jamais de tonneau, surtout quand on s'est longuement désaltéré.
Eh bien, ce sera là notre conclusion. Merci Antoine Orsine d'avoir été notre invité.
Merci à vous, Patrick.